Depuis Kinshasa, je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Le jeudi 19 septembre dernier, le gouvernement souminois a totalisé 100 jours depuis son investiture en juin dernier par l'Assemblée nationale. Si pour certains députés nationaux, l'action du gouvernement n'est pas encore visible dans leur circonscription électorale, au vu des conditions précaires dans lesquelles vivent les Congolais, une certaine opinion estime par ailleurs que 100 jours après l'entrée effective en fonction du gouvernement souminois, le bilan demeure mitigé. L'opposition congolaise, quant à elle, parle d'un bilan largement négatif, alors que la société civile, pour sa part, déplore que les 100 jours du gouvernement souminois n'ont pas encore apporté le moindre signe d'amélioration du bien-être des Congolais. Toutefois, d'aucuns estiment qu'il y a tout de même certains ministres qui se sont distingués à travers leurs actions et que d'autres se recherchent encore. Comment commentez-vous les 100 jours du gouvernement souminois? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs pour aussi nous écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs, mais aussi intervenir en direct en composant les ondes en 971-680-79. Patrick Kassonga est en la mise en nom de ce magazine et je lui fais ça. Bongonda sur la réalisation et la coordination au micro, c'est Marcel Gomobala. Toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Bienvenue, si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs aujourd'hui. Nous parlons du bilan à mi-parcours des 100 jours du gouvernement souminois. Et pour en parler, nous avons en ligne depuis New York Patrick Muyaya, ministre de la communication média et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, merci d'avoir
accepté. Et auditrice.
Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre, pour aborder cette question sur le 100 jours du gouvernement souminois. Comme vous le savez, il y a certains députés qui estiment que l'action du gouvernement, des 100 jours du gouvernement souminois, en tout cas, sur le terrain n'est pas visible au vu de conditions précaires dans lesquelles vivent encore de Congolais, surtout dans leur circonscription électorale, mais également l'opposition congolaise qui parle en tout cas d'un bilan largement négatif, alors que la société civile, pour sa part, déplore que les 100 jours du gouvernement souminois n'ont pas apporté le moindre signe d'amélioration du bien-être des Congolais. Mais toutefois, il y a ceux qui estiment qu'il y a tout de même certains ministres qui se sont distingués à travers les actions et que d'autres se recherchent encore. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour du 100 jours du bilan du gouvernement souminois en tant que porte-parole du gouvernement?
En premier, je voudrais vous remercier pour les débats citoyens que vous voulez faire sur l'action gouvernementale. Vous savez que la rélévabilité est l'une des marques déposées de notre gouvernement et je pense que c'est aussi dans cette logique que travaille la première ministre Judith Suminois. Je pense qu'au-delà de tout, avant même qu'on ne discute sur les avis des uns des autres, il faut d'abord saluer la nomination historique pour la première fois de l'histoire de notre pays d'une femme à ses postes, mais c'était pas simplement une femme qui a été nommée, c'est aussi une femme de grande expérience que personne ne peut contester. Elle était ministre de plan avant d'arriver là où elle est. Ceci dit, lorsque vous commencez un gouvernement, vous avez 3 mois ou 100 jours, je ne pense pas que dans notre concept ce soit véritablement l'unité des mesures en termes de délai pour être en mesure d'évaluer l'action amorcée par le gouvernement, si elle a apporté des changements ou pas. Mais ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut marquer un moment d'arrêt pour dire, écoutez, c'est quoi qui se fait depuis que la première ministre Judith Suminois est là. Moi, j'observe en interne qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La difficulté, c'est que nous comprenons l'impatience de notre population qui veut aller au résultat, mais aujourd'hui, je ne saurais peut-être pas tout vous épingler, mais il y a de faits qu'il faut relever. Vous avez vu vous-même les travaux qui a été fait et dont on attend les résultats bientôt sur le terrain autour de la maîtrise de la réduction des prix de biens de première nécessité, qui va de fait directement aller avec l'amélioration du pouvoir d'achat. J'ai discuté encore du sujet cette nuit avec mon collègue de finance qui dit que l'assise de tout, c'est la stabilité macroéconomique. Et cela s'observe donc actuellement lorsque vous regardez le taux de change qui a plus ou moins, qui est aussi autour de 28-40, en tout cas d'après les chiffres qui m'ont été donnés par mon collègue de finance. Il y a eu une légère baisse, mais ce n'est pas encore cela. Mais lorsque vous regardez d'autres secteurs, aujourd'hui, dans les cas de 100 jours du gouvernement souminois, s'il faut qu'on s'exprime en fonction de 100 jours, vous allez voir qu'on a lancé des grands travaux de construction de rocade au travers de la ville-province de Kinshasa, avec l'effet que cela déclenchera. Il y a tant d'autres choses qui ont été décrétées dans les secteurs de la justice, par exemple, ou encore dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité. Je voudrais pas parler du secteur de la communication et des médias, mais c'est pour vous dire que en termes de mouvement des départs, tous les membres du gouvernement ont pris leur envol. Maintenant, la première ministre, elle a dit, à la suite de ce que les présidents avaient dit, il y aura des évaluations régulières des membres du gouvernement. C'est en fonction de cela qu'il y aura évidemment de points à donner aux uns et aux autres en fonction des résultats qui sont attendus de leur secteur en suivant évidemment le programme d'action du gouvernement. Et donc aujourd'hui, pour résumer, nous comprenons encore une fois l'impatience de Congolais qui veulent vite qu'on arrive aux résultats. Nous voulons leur assurer que tout est fait pour qu'on arrive justement à ces résultats. Nous avons l'exemple de la rentrée scolaire. Nous verrons dans les prochains jours ce que sera la rentrée académique, mais nous voyons aussi comment se cristallise le dialogue social entre gouvernement et syndicats dans l'objectif clair de préserver la paix sociale et de s'assurer que nous, comme gouvernement, nous répondons aux préoccupations des différentes catégories sociales. Voilà en résumé ce que je peux dire en liminaire à vos propos, cher Marcel, mais il faut considérer que les taureaux a été pris par les cornes et que dans les jours qui viennent, des résultats, en tout cas ceux qui doivent être perçus, laisseront au niveau de nos compatriotes.
Voilà, vous avez épinglé là certaines actions qui sont déjà menées depuis que le gouvernement souminois est entré en fonction. Vous avez parlé par exemple de ce qui est de biens de première nécessité, en tout cas pour essayer d'accroître le pouvoir d'achat de la population. Mais il y a aussi ceux qui estiment qu'on a beaucoup attendu pour ce qui est de la création des emplois, mais là apparemment les choses ne semblent pas encore bien marcher.
Bon, écoutez, la création de l'emploi, c'est la première priorité de ce quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a un travail en cours. Peut-être faudrait-il arriver à recenser tout ce qui a été collationné au niveau du ministère de l'Emploi à travers des services spécialisés, notamment le NEM. Je pense, à mon avis, il faudrait attendre parce que dans les prochains jours, nous organiserons des séances de redevabilité avec les différents membres de gouvernement. On pourra avoir de chiffres précis qui se dégagent de part et d'autre. Mais il faut considérer que lorsqu'on lance des grands travaux comme les travaux des rocades, c'est des emplois qui ont été générés. Je voudrais pas ici revenir sur les emplois qui ont été créés dans le cadre de 145 territoires. N'oubliez pas que c'est la première ministre qui était ministre du plan avant et n'oubliez pas que nous sommes dans un gouvernement de consolidation des acquis. Et donc, toutes ces questions, c'est les questions qui font l'objet quotidiennement des suivis réguliers. Et donc, peut-être le moment venu, on communiquera avec plus ample détail.
Voilà, là c'est déjà pour le 100 premier jour du gouvernement souminois. S'il faut maintenant, en tout cas, se projeter dans l'avenir. Et vous pensez qu'il y a, en tout cas, des secteurs pour lesquels il faut davantage accroître l'action gouvernementale pour que le résultat puisse être probant sur le terrain?
Écoutez, nous sommes en train de travailler à la diversification de l'économie. Vous avez suivi que le projet de budget que nous avons déposé pour 2025 à l'Assemblée nationale, disons au Parlement, c'est à peu près 18 milliards. Une grosse part de cette enveloppe sera consacrée aux investissements parce que nous pensons que c'est vers là que nous devons aller pour arriver, par exemple, à connecter les pays et à donner à mon avis, suffisamment de moyens pour les secteurs agricoles, parce que nous parlons beaucoup de la revanche du sous-sol sur du sous-sol. Je pense qu'il y a des points sur lesquels il faudrait être vigilant et regarder les changements qui vont pas tarder à arriver.
Alors, puisque vous l'évoquez, monsieur le ministre, dernièrement, nous avons abordé justement la question sur les développements du secteur agricole en RDC. On en a notamment parlé lors du premier mandat de Félix Tshisekedi de la revanche du sol sur les sous-sols. Mais là, on a apparemment aussi l'impression que du côté de l'agriculture, il n'y a pas vraiment de grandes actions qui sont menées. Il y a ceux qui estiment, par exemple, la campagne agricole peine à démarrer jusqu'à ces jours.
Bon, écoutez, la campagne agricole, vous savez, il y a une chose est de les dire et une chose est de les faire, parce que si on doit faire une campagne agricole sur un pays comme la RDC, à mon avis, c'est des choses qui doivent être bien préparées et bien faites. Je crois savoir que le ministre d'État est fin prêt. Je pense que dans les jours qui viennent, nous saurons comment cette campagne va se décliner avec toutes les spécificités que cela requiert. Il ne faut pas oublier que parallèlement à cela, il y a notamment des mesures qui ont été prises pour soutenir, par exemple, le producteur de maïs pour éviter que nous ne puissions retomber encore dans la pénurie que nous avons connue il y a quelques mois. Il y a des travaux en cours au niveau à la fois du secteur agricole, mais surtout dans les secteurs de développement rural, avec une priorité qui va être accordée non seulement aux routes et dessertes agricoles, mais comment on va rendre certains biefs de nos rivières navigables pour permettre aussi l'évacuation de produits. Vous voyez que, cher Marcel, tout est déjà mis en mouvement et que les 3 mois ou les 100 jours à partir duquel les gens voudraient voir tous les résultats tomber, à mon avis, n'est pas le temps suffisant, parce que certains programmes doivent arriver à maturité après leur conception en termes de avant de les mettre véritablement en œuvre. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur nous parce que nous sommes rélevables, parce que nous savons que nous devons venir dire aux Congolais ce que nous faisons, et dans le moment venu, nous reviendrons pour leur dire point par point où nous en sommes avec le travail du gouvernement.
Bon, monsieur le ministre, on vous garde encore à Lille. Le temps pour nous d'ouvrir le standard. Nous avons déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir à Monsob, ici moi, qui nous appelle depuis Bukavu. Maître Omar Kigalo, qui est ici à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de 100 jours du gouvernement souminois avec le ministre Patrick Muyaya, ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement qui est en ligne depuis New York. Si vous voulez intervenir, vous pouvez composer les zones 9-706-80-79.
Connaissez-vous la Mpox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de Mpox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la Mpox s'est faite à travers des lésions, voire plaies, des liquides organiques comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de Mpox et le rapport sexuel avec une personne malade de Mpox. Pour nous protéger contre la Mpox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de Mpox et éviter tout contact avec les objets souillés par de malades de Mpox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151. Adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Amos Bissimoa nous appelle depuis à Bukavu. Amos, vous avez la parole.
Merci bien. En fait, je tiens à saluer l'invité, son excellence Patrick Muyaya, votre invité. En fait, nous venons de suivre les porte-paroles de notre gouvernement, mais moi, à mon avis, je pense que tant que la RDC aura des dirigeants qui voient du blanc là où beaucoup de gens voient du noir, pour nom de leurs intérêts personnels, ce pays aura des difficultés à décoller. Nous tous, nous avons apprécié la nomination de la première ministre qui est une femme. Et tout le monde avait dit, c'est une fois dans l'histoire de notre pays, et connaissant que ce sont les mamans qui nous mettent au monde, et qui connaissent nos souffrances, que les choses allaient s'améliorer. D'aider, la première ministre avait donné sa mission, elle a dit,
Amos, s'il vous plaît. Amos, s'il vous plaît. On est en train de faire un bilan à mi-parcours des 100 jours. Mais justement, Amos, on est en train de faire un bilan à mi-parcours, c'est-à-dire un bilan des 100 jours du gouvernement Suminois. Alors, allons-y sur le fait, sur le terrain. Pendant les 100 jours, qu'est-ce que vous avez à constater sur le terrain? Et que, donc, vous avez, justement, allez-y vraiment sur le fait. Allez-y sur le fait, oui.
Est largement négatif. Largement négatif. Je donne des faits.
Allez-y,
par rapport
oui.
à la question sécuritaire à l'Est, au lieu que la situation s'améliore, elle s'empire du jour au jour. Pour ce qui est de la vie, des conditions, de la situation socio-économique de la population, conditions de vie, évoquer la rentrée scolaire. Bientôt, un mois, les enfants sont à la maison parce que les enfants sont en grève. Pour ce qui est du ton du dollar, il a menti parce qu'aujourd'hui, le dollar continue à galoper. Et sur le marché, le gain de première nécessité ne peut pas augmenter le prix. Tout ce qui est des infrastructures, aucun chantier n'a été lancé. Peut-être dans d'autres provinces, mais dans ma province, il n'y a rien, à part nous mentir. Il a évoqué la question du budget, de 16 milliards à 18 milliards aujourd'hui. Qu'ils nous disent d'abord l'impact de ces 16 milliards au sein de l'opinion. Quel est l'impact de 16 milliards du budget en cours? On sait rien à part le fait qu'ils ont, ceux qui géraient le pays ont eu à détourner l'argent qui devait contribuer à des différents projets au niveau du pays. La question de la création des emplois. Qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont créé des emplois en faveur de la jeunesse ou en faveur du peuple congolais. Mais moi, je pense à la lire où vont les choses. Le bilan de 100 jours, c'est largement négatif et il fallait qu'ils revoient leur manière de faire au lieu de continuer à nous tromper. Au lieu qu'ils améliorent les conditions de vie des Congolais, aujourd'hui ils ont un plan diabolique de vouloir réviser la constitution ou la changer. Ce qui ne passera pas pour eux.
Voilà, merci Amos, excusez-moi. Ça c'est un autre aspect des choses. Amos, s'il vous plaît, c'est un autre aspect des choses qu'on pourra aborder prochainement sur la révision de la constitution. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de faits sur les actions menées sur le terrain, sur les 100 jours du gouvernement Suminois. Vous avez parlé de la sécurité, vous avez parlé de la rentrée scolaire, vous avez parlé du taux des dollars. Voilà, là on est sur le fait et le ministre va réagir. Par rapport à cela, merci à Amos d'avoir appelé depuis Bukavu. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, vous avez la parole, maître.
Merci beaucoup, merci Marcel. Dès le liminaire de mon intervention, je voudrais, à l'intention de son Excellence, Monsieur le Ministre, rappeler que le mandat politique n'est pas un mandat d'explication et de discours. C'est un mandat d'action concrète. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, je voudrais aussi rappeler que celui qui a les pouvoirs ne se plaint pas, mais il agit. Par rapport à la mission de ces jours sur l'évaluation des 100 jours, je voudrais d'abord féliciter les chefs de l'État pour les choix portés sur Madame Soumina, même s'il y a eu des ramifications autour du gouvernement qui a pris trop de temps à cause des appétits égoïstes et des ménopausés politiques. Je commence par les prouesses. Durant ces 100 jours, on a quand même pu apprécier deux ministères importants. Je commence par celui de la justice, qui a démontré qu'avec la volonté, on peut faire de bonnes choses. En un rien de temps, M. Constant Moutamba a pu réaliser des recettes au profit du trésor public. Ça, c'est à féliciter durant ses premiers jours. Aussi, il s'est activé dans une dynamique d'assainir la justice. Il y a eu des arrestations, il y a eu une politique de désengorgement de la prison, il organise des tribunes populaires où les victimes de la justice sale viennent se plaindre. Ça, il faut féliciter parce qu'on n'a pas que le rôle de critiquer. Il y a aussi un autre ministère, celui des finances. On a vu le dynamisme de M. Fouamba, qui a repris la régularité dans la paye. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés à temps et puis il y a eu hausse de leur salaire. Ça, nous devons féliciter. Mais de manière générale, à 80%, le bilan des 100 jours est négatif. Au-delà des deux prouesses que j'ai évoquées tantôt, je commence par le secteur du ministre des médias. J'apprécie beaucoup M. Mouyer. Une loi a été votée en 2023, la loi sur la presse. Lorsqu'on lit cette loi, elle est remplie de belles écritures. Mais sur terrain, rien n'est fait. Je commence par la RTNC, qui est un établissement public sous votre tutelle. Vous avez les pleins pouvoirs. Si vous lisez les statuts de ces médias, qui est la RTNC, elle est censée être au milieu du village, accorder la parole et à la majorité, à l'opposition, ainsi qu'à la société civile. Lorsqu'on fait une étude comparative entre les textes de 2023 sur la presse et ce qu'on voit à la RTNC, lorsqu'on fait une étude évaluative entre les statuts de l'RTNC et la réalité sur le terrain, on se rend compte que c'est un chiasme. La RTNC est devenue une apologie de la gloire au chef de l'État. À tant que ministre des tutelles, durant ces 100 jours, vous n'avez rien fait. Alors qu'on le dit, on crie sous les jours. Deuxièmement, sur le plan social, monsieur le ministre, on reconnaît un pays développé sur 4 indicateurs. Premièrement, l'accès à l'énergie. Si on fait un bilan aujourd'hui après vos 100 jours, moins de 50% des Congolais ont accès au courant électrique ainsi qu'à l'eau. C'est déjà un bilan négatif. On les critique pas pour insulter, mais pour réveiller. Deux, l'accès aux revenus. Il y a une loi sur le code du travail, il y a une loi sur la politique salariale. Est-ce que les employeurs congolais respectent les SMIC? Durant ces premiers jours, on n'a rien vu de spécial et on voudrait qu'on se réveille. Trois, l'accès à l'éducation. Nous félicitons la gratuité qui continue à produire ses fruits. Mais la gratuité ne suffit pas, encore faut-il qu'il y ait la qualité. Combien d'enfants congolais ont droit ou accès à l'école? Ça aussi, c'est un échec. Un quatre, accès aux soins de santé. Nous avons vu récemment la réhabilitation de l'hôpital Mamayemu, mais jusqu'à ce jour, peine à reprendre ses travaux. Donc, si on se réfère à ces quatre indicateurs, l'accès à l'énergie, l'accès aux revenus, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, durant ces premiers jours, de manière générale, rien n'a été fait. Sur le plan économique, monsieur le ministre, durant ces premiers jours, nous constatons que le même fait continue. Nous avons en ces jours un taux d'inflation élevé, une instabilité du taux d'échange qui n'arrive pas toujours à changer malgré les mesures prises par les ministres de l'économie. Nous avons aujourd'hui une instabilité et une hausse vertigineuse des prix des premières nécessités. Jusque là, rien n'est fait pour qu'on puisse arranger. Alors, puisqu'on se limite pas seulement à critiquer ou à évaluer, moi je propose qu'on mette en place la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique budgétaire passe par la bonne gouvernance. C'est bien de planifier un budget, encore faut-il prendre des mesures pour bien gérer, mais aussi renforcer les contrôles budgétaires. Il y a aussi la politique monétaire. Aujourd'hui, parmi les causes qui asphyxient notre économie, il y a d'abord la dollarisation de l'économie congolaise, alors que la loi bancaire fait de la monnaie nationale une monnaie primordial. Sur terrain, on ne respecte pas. Il y a une loi qui a été votée en 2003 sur le prix. La loi qui précise les prix qui doivent être faits et les majeurs des bénéficiaires. Est-ce qu'il y a une politique monétaire qui consiste à descendre sur terrain, à contrôler? Rien n'est fait. Donc, si on met en place une bonne politique budgétaire, une bonne politique monétaire, on aurait fait œuvre utile. Autre évaluation, c'est la sécurité. Les premiers mots de la première ministre ont été, dès que je serai en fonction, je me battrai durant les premiers 100 jours de remettre la paix au niveau de la RDC. Jusqu'à ce jour, aucune localité n'est récupérée. La guerre ne fait que s'enfoncer. Et récemment, nous avons vu l'état de siège être prorogé. De manière générale, monsieur le ministre, nous félicitons les efforts qui sont faits, mais nous voulons qu'on aille au-delà des discours, au-delà des explications, que nous passions des actions concrètes. Car Constant Mutamba et Doudou Fombo nous ont démontré, avec la volonté politique, l'organisation des choses, on peut faire des très bonnes choses. Voilà, très cher Marcel, ma petite contribution à l'émission de ces jours.
Voilà, merci beaucoup. Maître Omar, depuis Kinshasa. Alors, avant d'accorder la parole à Madame Esther, qui nous appelle depuis Mavinga, depuis Kinshasa, rapidement, je m'en vais lister de réaction de Paul Malala Tamboué, sur la page Facebook par nos auditeurs. Il est certes vrai qu'il y a quelques 3 ou 5 ministres, membres du gouvernement souminois, qui se distinguent sur le 56 ou 57 pour avoir initié un peu de réforme, mais c'est en dessous de la moyenne parce que ces réformes-là ne touche pas directement à la vie au quotidien de population et aux revendications de population vivant en milieu rural de la RDC. La population attend du gouvernement souminois des actions à impact visible, palpable, comme la construction des infrastructures. Voilà une longue réaction de Paul Malala Tamboué depuis Kinshasa. On revient au standard. Maître Esther Mavinga, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je pense que c'est moi qui ai la parole maintenant.
Oui, c'est vous qui avez la parole. Allez-y.
Je tiens à saluer le ministre Patrick Muyaya. En tout cas, c'est un honneur pour moi de pouvoir lui parler. Et merci à vous, Marcel, aussi, pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Et par rapport à ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure, il nous a d'ailleurs bien étalé tout le problème. Tous ces secteurs qui sont jusque-là, qui n'ont pas encore connu d'avancée, et pour ça je suis vraiment, vraiment touchée. Mais pour moi la question au ministre serait de savoir c'est quoi vraiment l'obstacle. Est-ce que par rapport au mandat, par rapport à ces gouvernements. Nous sommes encore au niveau de stratégie, nous sommes encore en train d'élaborer de stratégies pour mettre en place, où il y a vraiment un obstacle qui puisse empêcher l'exécution de ces six piliers que Madame Sonny Noir a bien, bel et bien énoncé durant son mandat. Et par rapport à ça, je parlerai même de la création des emplois, la valeur de change que mon confrère a dit. C'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui empêche à ce que ces choses-là puissent être mises en œuvre? Est-ce la main-d'œuvre? Est-ce que les gens qui sont autour de ces gouvernements ne favorisent pas l'exécution de ces programmes ou même l'avancée dans ces programmes, ou que c'est juste que nous sommes encore en train d'élaborer des stratégies adéquates pour pouvoir mettre ces choses en place?
Donc vous estimez, vous estimez que les actions menées jusque-là pendant les 100 jours du gouvernement sous-minois ne sont pas ne répondent pas déjà aux attentes de la population? C'est des actions vraiment comme une goutte d'eau dans l'océan, c'est ça?
Oui, je reconnais que jusque-là, en tout cas, nous n'avons encore rien vu, ça c'est vrai, mais peut-être que le ministre peut nous dire que nous n'avons pas encore vu quelque chose, tout simplement parce que nous élaborons encore de stratégies adéquates pour pouvoir mettre ces choses en œuvre. Et soit, il peut aussi nous dire que non, il y a tellement beaucoup d'obstacles que nous sommes en train de vouloir le mettre en œuvre, mais nous sommes quand même empêchés. Nous sommes en train de chercher comment pourrons-nous contourner cet obstacle pour pouvoir faire voir à la population ce que nous sommes en train de faire, en fait.
C'est merci ça. Beaucoup, Maître Esther. C'est toujours bien d'avoir 10 femmes qui réagissent pendant ce magazine. J'espère que vous avez déjà intégré le groupe WhatsApp de Parle aux auditeurs. C'est déjà fait?
Oui, c'est déjà fait. Je suis dans le groupe et je suis d'ailleurs très contente de pouvoir y participer.
Voilà, merci Maître Esther. Allons parler de ce groupe autour de vous, de manière qu'il y ait encore beaucoup plus de personnes qui intègrent le groupe. Merci et bonne journée à vous, Maître Esther Mavinga. On revient, on était à Kinshasa, on va maintenant à Lubumbashi pour retrouver Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour au ministre Patrick Muyaya et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour faire avancer à cet échange citoyen? Vous avez suivi les interventions des uns des autres. Il y a ceux qui estiment qu'en tout cas, il n'y a pas encore suffisamment d'actions palpables pour sécuriser l'accès à l'énergie, à l'éducation, au sein des santé, et même encore des problèmes sécuritaires persistent dans le pays. Qu'est-ce que vous avez à commenter sur les 100 jours du gouvernement sous-minois? Maître Patrick Odia.
Marcel, merci de m'associer à ce niveau du débat. Il est d'emblée clair que ça soit noté qu'en principe, on ne devait pas parler de bilan. Parce que parler après 100 jours, ça veut dire 3 mois après la mise en place du gouvernement, remise et reprise 3 mois après. Je pense qu'il est un peu très tôt, de manière générale, dans le principe universellement admis, qu'on puisse juger un gouvernement au regard de ces trois premiers mois ou ces 100 premiers jours également. Mais il est de la culture africaine, voire même congolaise, je parle de la culture politique congolaise, que lorsque le gouvernement est mis en place, il y a un délai qui est accordé. Ce délai n'est pas du point de vue légal, mais il est sociologique ou politique également, qu'on puisse examiner les pour et les contre, les départs, hein, qu'on juge un peu, qu'on voie les failles, et s'il y a moyen de recadrer également les tirs également. Voilà pourquoi en politique, et la culture congolaise également, nous procédons aux 100 jours de manière populaire à examiner les failles, les avantages et les pour du gouvernement également. Parce qu'il s'agit des gouvernements soumouinants, sauf que je dise que comme les autres confrères, honorés confrères l'ont dit, il n'y a pas jusqu'à là des actions qui ont été menées allant dans le sens de respecter la parole prise ou donnée lors de l'Assemblée, devant le parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Jusqu'à là, la première ministre souffrait que nous les disions un peu. Il se constate que la charge du gouvernement essaie de lui dépasser. Je concéderai au ministre Muyaya qui prendra parole pour faire son travail de défendre le gouvernement. Mais nous, les constats que nous avons en tant que peuple, par exemple, c'est que la charge gouvernementale, la première ministre, chef du gouvernement, lui avons donné beaucoup d'espoir, mais jusqu'à là, si on peut s'en tenir à quelques axes également, du domaine infrastructure, du domaine social, n'en parlons pas, même du domaine, on peut dire, là aussi, il y a à boire et à manger. Voyez-vous, il y a des failles que l'on peut recruter, que l'on peut constater également sur le plan des infrastructures. Je prends par exemple la route Kalamambouji. La première ministre, lors des interventions des questions orales et tout, adressées au ministre ou à la première ministre à l'Assemblée nationale, la première ministre avait fait voir que la route Kalamambouji été déjà inaugurée. Elle avait même délégué le ministre des ITPR également. Mais au jour, au stade où nous parlons avec vous, il n'y a rien, aucun suivi. Alors qu'elle avait pris l'engagement de pouvoir respecter. Il y a autant de routes, que ce soit au Sud Kivu, que ce soit à Lubumbashi.
Excusez-moi, maître Patrick Odia, pour la route Kananga Kalambabushi. On a parlé de l'inauguration, ou plutôt des travaux qui vont être amorcés.
Non, on a parlé de l'inauguration et lancement des travaux. Le ministre des ITPR était là. Je pense que le Patrick Muyaya, l'excellence Patrick Muyaya, a eu également la chance, à ce qui me semblerait, qu'il avait pris part à ça. Ça reste à vérifier également.
Oui, je continue
avec la route Lubumbashi. Martel, la route Lubumbashi jusqu'à Tanzanie. Le premier ministre était là, le président zambien était là, le président, Tshisekedi était là, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la route principale que je prends souvent. Mais il n'y a pas de travaux qui s'exécutent. Le président du Sénat, Samalou Kondé, était étonné de voir que les travaux n'avaient pas commencé comme il se devait. Lui-même, il n'y a pas deux semaines qu'il était ici à Lubumbashi également. Et nous avons parlé avec lui. Non, il y a autant de questions sur le plan infrastructure qui n'ont pas été abordées. Parlons-en, parce qu'il s'agit de l'économie. Au jour d'aujourd'hui, l'économie, l'inflation essaye toujours de grimper en haut. Et nous nous demandons qu'est fait le gouvernement et les taxes, je ne sais pas moi, les commissions, Ecofin et autres du gouvernement. Rien. Seulement, nous constatons les performances individuelles. Je ne vais pas nominer les gens ici, mais parce qu'ils ont fait un bon travail, nous ne devons pas que critiquer le ministre Moutamba, le ministre de Finances. Nous pouvons centrer également Madame Akasia qui essaie de tourner et qui travaille. Patrick Mouya également, on parle d'un bilan du Congrès. Nous en parlerons également plus tard, mais nous sentons que Patrick Mouya et les autres ont des performances individuelles, mais qui ne sont pas cadrées. Vous savez, dans une équipe, même si les coachs, il y a des performances individuelles, mais au-delà de tout, il doit y avoir d'abord une ligne à conduire par les coachs, qui doit dire que non, ici je sanctionne, ici je donne la politique à faire. Mais dans les cas d'espèce du gouvernement, l'équipe gouvernementale, nous sentons que coach, qui est la première ministre, ne semble pas mesurer ou maîtriser l'effectif du gouvernement, au-delà des individus ou au-delà des performances individuelles également. Voilà. Que faire? Il y a lieu de parler des remaniements du gouvernement pour recadrer les titres.
Voilà, ça c'est...
Vous avez le ministre de l'Agriculture, jusqu'à là, nous ne sentons seulement la campagne a été scellée, les matériels qui devaient être distribués ont été scellés au profit des agriculteurs et nous demandons quel est le rôle du gouvernement.
Voilà,
il y a lieu, nous invitons le chef de l'État à penser au remaniement du gouvernement.
Merci.
Et cela permettra à ce que les têtes bien fournies soient prises.
Merci maître Patrick Odia, il faut qu'on avance, on a retenu, vous parlez plus de performance individuelle plutôt que d'une action conjuguée de tous les gouvernements. C'est bien votre avis, merci maître Patrick Odia d'avoir appelé depuis Lubumbashi. On va écouter Paul Malala depuis Kananga.
Merci, merci Marcel et merci l'excellence Mouyaya.
Voilà, on va écouter Paul Malala depuis Kananga, et puis on va revenir à notre invité, le ministre Patrick Mouyaya. Paul Malala, vous avez la parole.
Merci, monsieur le journaliste. Je salue le ministre Mouyaya, qui est en ligne. Je voudrais vous rappeler ici que le gouvernement a un bilan mitigé, un bilan largement mitigé, parce que comment ça fait tout que nous avons un gouvernement constitué de plus de 60 membres du gouvernement. Sur ces 60, 65 ou 67, nous n'avons que 3 ou 5 ministres qui se distinguent. C'est en dessous même de la moyenne. En dessous de la moyenne, si c'était peut-être 25 ministres, 30 qui se distinguaient, on allait parler d'un bilan positif. Monsieur le journaliste, il y a les ministères qui doivent poser des actions net et clair, des actions très sensibles, des actions palpables. Nous avons ici, par exemple, en dehors de M. Moutamba, ministre de la Justice, M. Fouamba, celui de la fonction publique, le camarade Mouyaya, qui a aussi bénéficié d'une confiance renouvelée du chef de l'État. Mais je voudrais vous demander, monsieur le journaliste, allez-y en province, par exemple. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est le projet de 100 jours. Ça veut dire quoi? Quelles sont les actions que le gouvernement est en train de mener? Notamment, par exemple, la construction des routes, la construction des écoles, la construction des hôpitaux. J'ai eu la chance de parcourir 4 provinces dernièrement. Et je suis arrivé, je vous donne l'exemple, de la direction Boujimaï-Kabinda. Cette route-là, c'est une route de dessert agricole. Cette route qui est à l'état de délabrement très avancé, et sert à booster l'économie à la base. Et cette route permet à l'échange commerciaux entre les provinces, notamment la province de Lomami, la province du Maniema et la province de Kasaï-Oriental et l'autre de Sankoro, voire même le Haut-Lomami. Mais il existe une promesse, il y a daté de longtemps depuis Joseph Kabila. Et cette promesse, le président Tshisekedi est allé en campagne, il l'a regretté. Il s'est limité au regret et non à la résolution. Lorsqu'il est rentré, on pensait peut-être que cette route sera asphaltée. Nous avons dans le projet de 145 territoires, on a promis l'asphaltage de 15 km de route au niveau de la ville de Cabinda, par exemple. Nous sommes allés là-bas. Il n'y a même pas un
commencement. Voilà. Merci Paul Malala. Merci Paul. Il faut qu'on avance. Vous avez épinglé, en tout cas, du côté. S'il vous plaît.
La question au ministre Muyaya.
Oui.
Oui. Oui.
Oui, vous avez épinglé la question
que je suis en train de poser.
Rapidement, allez-y.
Oui,
allez-y.
Au ministre Muyaya, où est-ce que nous en sommes avec l'asphaltage de 15 km de route dans la ville de Cabinda, dans la province de Lomami? Pas, c'est la promesse du chef de l'État.
Voilà, tout à fait, exactement. Le ministre va réagir, s'il vous plaît, va réagir par rapport à cela, simplement parce que vous avez essayé de rejoindre ceux qui vous ont précédé par rapport à ce qui est des infrastructures routières. C'est vrai, le ministre a parlé des actions qui sont déjà menées de ce côté-là, mais comme vous le voyez, comme vous l'avez vous-même soulevé, il y a encore beaucoup à faire. Voilà, on revient à notre invité, le ministre Patrick Muyaya, et ensuite on va rouvrir le standard pour avoir deux ou trois auditeurs, et après on va conclure avec notre invité. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, vous avez la parole pour réagir aux interventions des uns et des autres.
D'abord, j'apprécie la pertinence des interventions des uns et des autres. J'espère que vous m'accorderez assez de temps pour répondre à la dizaine de questions qui a été posée par à peu près 5 auditeurs. Mais ici, il faut que je pose d'abord le principe. Vous ne pouvez pas, alors qu'on parle d'un gouvernement qui a une chef, pensez qu'il y a des ministres ou des joueurs qui peuvent se distinguer et ne pas voir la main ou l'aura de la chef dans les actions qui sont entreprises. Parce que tous les ministres qui travaillent sur la coordination de la première ministre. Ce n'est pas des ministres qui travaillent comme des électrons libres qui font bon ce qui leur semble. Non, pas du tout. Les actions qu'il pose, c'est les actions qu'il pose dans les cadres d'un programme du gouvernement qui a été adopté au niveau du Parlement et qui donne des prérogatives aux uns et aux autres. Et toute action du gouvernement est suivie de près par la Première ministre. Donc il faut considérer que ce que les ministres qui sont performants font, ils les font sous la conduite de la Première ministre. Ça, c'est un principe que je voulais rappeler. Le deuxième principe, c'est qu'il faut savoir que les ministères ne s'équivalent pas. On ne peut pas commencer à faire des comparaisons de ministres sectoriels. On les ferait sur quelle base? Lorsque vous êtes ministre des hydrocarbures, par exemple, vous êtes en train d'aller sur terrain, faire le marquage du carburant parce qu'il faut faire la lutte contre le carburant, la lutte contre justement les piratages du carburant ou le trafic illicite. Mais combien sont ceux qui peuvent comprendre ce que ça veut dire d'abord marquage? C'est qu'il y a un travail qui permettra aussi à la République de recouvrer de millions de dollars qui s'évaporent dans ces secteurs. Ce n'était qu'un exemple pour vous donner une illustration. Je reviens sur ce que j'ai disais aussi en liminaire, cher Marcel, et tous ceux qui nous suivent doivent être dans les mêmes esprits que moi. 100 jours, ce n'est pas le délai qu'il faut pour faire les bilans du gouvernement. J'ai dit tout à l'heure, on peut marquer un moment d'arrêt pour regarder comment la fondation a été placée et comment les actions ont commencé. Il ne faut pas oublier que 60% des membres du gouvernement sont des nouveaux. Et ne pensez pas que lorsque vous arrivez au ministère, les lendemains, tout de suite, vous allez commencer à poser des actes. Il faut faire attention à ne pas faire de cosmétiques, mais plutôt à poser des actions, c'est que moi j'aime dire en anglais, sustainable, qui peut permettre à la population de suivre et de voir que c'est des actions qui s'inscrivent dans une certaine pérennité. Ceci dit, je voudrais aller à essayer de répondre à un certain nombre de sujets qui ont été abordés tout à l'heure. Alors, Maître Omar Kigalo dit le mandat politique n'est pas un mandat d'explication et des gestes, on s'explique pas mais on agit. Mais il faut faire attention. lorsque vous dites que ce n'est pas un mandat d'explication, entre guillemets, alors vous nous interdisez de vous dire ce que nous faisons, vous nous interdisez de faire de points réguliers avec vous des actions que nous avons entreprises, parce que toutes les actions ne sont pas forcément vues et perçues de la même manière. Et nous, nous considérons que dans les cas du gouvernement qui est le nôtre, la redevabilité est un de points centrales. Donc nous serons toujours en mesure de venir pour expliquer aux uns et aux autres ce que nous faisons. J'ai entendu dire que ça va faire un mois de grève par notre compatriote de Bukavu. Moi, je serais très intéressé à ce qu'ils me disent quelles sont les écoles qui font la grève et qui m'effacent la liste, Marcel. Il ne faut pas oublier que toute rentrée scolaire a toujours été timide, surtout les deux premières semaines, pour plusieurs raisons, les raisons sociales, les cahiers et tout le reste. Mais il faut regarder comment nous, les gouvernements, on a préparé cette rentrée. Je ne pense pas que vous avez entendu, comme c'était le cas à l'époque, des mouvements massifs de grève. On peut comprendre que dans certains coins du pays, il y ait des difficultés, il y ait des personnes qui pensent que c'est les meilleurs moments pour faire entendre les messages. Ici, je ne voudrais pas parler de chantage, mais je crois qu'ils ont en face un gouvernement qui est à l'écoute. On a négocié, on a discuté avec les bancs syndicaux sous la supervision du vice-premier ministre de la fonction publique, avec la ministre de l'ESU. Il y a même des efforts qui ont été consentis, je pense, en des engagements qui ont été pris en termes d'amélioration des revenus des enseignants. Mais tout ça, c'est des choses qui ont été faites, à mon avis, c'est des choses qui sont positives. Parce que ici, généralement, nous aimons parfois, sans être totalement informés, aller tout de suite sur des conclusions, alors qu'il faut suivre certains sujets point par point. Alors, on a parlé de ce qui se passe au niveau du secteur de la justice. C'est appréciable, évidemment, parce que la justice, comme vous le savez, c'est un des secteurs clés pour lesquels le président de la République a été des plus critiques. Et donc, lorsque le président de la République nomme le nouveau ministre de la Justice, les assignations des objectifs sont bien claires. Et comme c'est un secteur qui touche directement à plusieurs points de la vie de la nation, c'est tout à fait normal que l'action qui est menée pour le moment soit appréciée. Nous espérons que nous allons continuer, et tout au moins le ministre d'État de la Justice continuera sur cet élan pour s'assurer que nous commençons à travailler pour l'administration d'une bonne justice. Bon, j'ai entendu des amis se plaindre ici, dire que le gouvernement ne fait pas grand-chose dans les sociales et tout ça. Mais lorsque notre ami jette des fleurs à mon collègue des finances en parlant de la régularité de la paye, mais la régularité de la paye, est-ce que cela ne touche pas les sociales de nos populations? Et donc, vous voyez qu'il y a toujours moyen de mettre un bémol au lieu d'aller sur, à mon avis, des avis qui sont tranchés, là où les sujets sont interconnectés et les sujets sont parfois les uns plus complexes que les autres. Et donc, ici, il faut regarder, par exemple, j'ai entendu la question sur la RTNC. Sur la RTNC, beaucoup a été fait, même si je dois avouer que beaucoup reste encore à faire, par rapport à la, justement, au foisonnement des informations qui viennent de toutes parts, à la manipulation et par rapport à la qualité de certains programmes. Nous sommes en train d'y travailler. Je suis ministre de la communication et des médias. J'ai évidemment la tutelle de la RTNC, mais je ne suis pas, par exemple, le directeur des programmes ou des informations de la RTNC, même si je pense que beaucoup auraient voulu que cela soit le cas. Nous allons évidemment apprécier avec la direction de la RTNC ce qui peut être fait pour améliorer davantage. Or, aujourd'hui, lorsque vous regardez la qualité en termes d'image qui est produite par la RTNC, la qualité de certains programmes, je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits qui méritent, à mon avis, d'être appréciés, même si nous devons faire davantage. Et d'ailleurs, pour nous, l'idée, c'est d'ailleurs d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, la RTNC, dans sa vocation ancienne, n'est peut-être plus en mesure de répondre aux besoins de s'informer aujourd'hui, un besoin auquel il faut répondre 24 heures sur 24. Nous travaillons à des solutions. Je ne voudrais pas mettre la charrie devant le bœuf, mais les moments venus, vous allez voir la réponse que le gouvernement réserve à cela, parce que nous devons nous assurer que notre population est régulièrement informée et bien informée. Ça éviterait à certains d'avoir une série de positions qui sont tranchées.
Voilà, alors, monsieur le ministre.
Rapidement,
parce qu'il y a deux derniers auditeurs qui aimeraient intervenir. Vous avez, je pense bien, sur le presque l'ensemble.
Allez-y. Il y a une dizaine de questions qui ont été, à mon avis, très pertinentes. Peut-être que les autres poseront des questions qui récupéreront celles-là. Permettez-moi de
répondre. Allez-y.
On a parlé de l'accès à l'énergie, moins de 50%. Mais, chers amis, De quel Congo parlons-nous? Soyons conscients que les taux de desserte en électricité est un des plus faibles en Afrique, ou les taux de couverture en eau potable. Mais il faut apprécier, aujourd'hui, il y a le courant qui a été rétabli à Gungu, je pense, dans la province du Kwilu, avec le barrage de Kakobola qui a été mis en service. J'ai vu aussi que mon collègue de l'énergie a parlé d'autres coins du pays qui ont été électrifiés. Au dernier conseil de ministre, il est revenu sur le progrès qui sont faits dans ces secteurs. Peut-être qu'alors, le moment venu, lorsque nous ferons notre évaluation chiffrée en termes de redevabilité, on pourra vous dire combien de Congolais en plus ont eu accès à l'énergie électrique. Il faut considérer que le secteur de l'énergie est un secteur qui requiert beaucoup d'attention du gouvernement, mais que ce soit pour ce qui concerne l'accès à l'eau ou à l'électricité, c'est des questions urgentes qui sont traitées et suivies diligemment. Bon, on a parlé au plan économique du taux d'inflation élevé. Il faut savoir que notre économie dépend beaucoup de fluctuations extérieures. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la crise du Covid, mais je vous ai dit tout à l'heure, et je serai intéressé par ceux qui discutent, moi j'ai parlé à mon collègue de finance qui devrait, à mon avis, communiquer davantage pour que les gens comprennent ce que c'est le taux d'inflation élevé. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de la maîtrise du cadre macroéconomique qui comprend tous ces éléments, le taux d'inflation, la pression fiscale et tous les points qui sont à considérer pour être sûr que notre économie est une économie qui permet aux Congolais de profiter évidemment de leurs revenus. Nous parlions de baisse de prix, c'est une action qui a été amorcé par le gouvernement et qui devra être connaître son dénouement bientôt parce qu'il y avait des stocks qui ont été commandés. Mais le vice-premier ministre Moukoko m'a fait observer que dans certains supermarchés, le mouvement vers la baisse a déjà commencé. Peut-être qu'il faudra aussi là faire un travail étroit.
Voilà, monsieur le ministre.
Pour que les uns et les autres. Je veux en arriver. On a parlé de la dollarisation de l'économie. Oui. Est-ce que vous savez que nous, aujourd'hui, nous avons obligé au niveau de supermarchés des grandes surfaces, des paiements par TPE, des paiements par terminaux en francs congolais. Le premier mois, au mois de juin, je pense que nous étions dans l'ordre de 80 millions. Au mois de juillet, la gouverneure de la Banque centrale nous a fait le point au Conseil des ministres et nous sommes dans l'ordre des 7 milliards. C'est un pas vers la dédollarisation parce que c'est ça la monnaie qui devrait être pour nous une monnaie des références. Alors, pour le reste, j'ai entendu les commentaires de Madame Esther Mavinga. Il n'y a pas d'obstacle. Les défis sont grands. Nous n'avons pas la prétention de venir répondre à tous les besoins de Congolais cumulés depuis plus de 30 ans, 40 ans, parce qu'on n'a pas répondu à des problèmes de fonds depuis longtemps. Mais il faut observer que depuis que le président Tshisekedi est aux commandes de ces pays, nous avons beaucoup avancé. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les négatifs, on peut le concéder, mais si hier on était à moins 1000, aujourd'hui on est à moins 800 ou à moins 900. Et les solutions que nous prenons, cher Marcel, c'est des solutions qui sont, à mon avis, qui sont des solutions pérennes qui doivent durer, qui doivent rester longtemps, parce que nous ne voulons pas, comme je le disais tout à l'heure, des cosmétiques. J'en conviens avec Patrick de Lubumbashi qui a parlé des bilans prématurés en termes de 100 jours, mais au moins ça nous permet d'avoir un focus sur l'action du gouvernement et vous pouvez être sûr que cette émission sera suivie des collègues et nous verrons comment évidemment réajuster parce que toute action n'est pas une action parfaite. Voilà un peu, cher Marcel, les réponses que je pouvais donner.
Voilà, monsieur le ministre, nous vous avons laissé.
Sur les questions d'infrastructure, ouais. Je pense qu'il y a un besoin de faire un focus infrastructure avec le ministre Elie Sarrou qui pourra point par point faire le point de l'évolution de certains projets.
Bon, nous avons laissé en tout cas le temps de donner des explications à toutes les préoccupations des auditeurs. On ne pourra plus avoir le deux derniers, Glody Wanganga qui a appelé de Kinshasa, Jean-Claude qui a appelé de Pikindo, toutes nos excuses parce qu'il fallait qu'on laisse le temps au ministre de la communication des médias, porte-parole du gouvernement, de donner un éclairage par rapport à toutes vos préoccupations. Alors, cette dernière réaction que je m'en vais lire, c'est celle d'Achille Kassongo depuis le Lubumbashi. C'est un peu tôt pour juger les gouvernements sous-minois, ne seront pas trop sévères et surtout pas pessimistes, et seront une fois de plus d'être patients et donnant-leur la chance de travailler. On pourra peut-être les juger dans une période bisannuelle. Voilà, ça pourra être ça, la conclusion pour ce magazine. Monsieur le ministre, vous avez un petit mot rapidement à ajouter.
Écoutez, le petit mot, c'est de dire aux Congolais qui nous suivent d'avoir confiance à l'action du président de la République et de la première ministre chef du gouvernement. Ils doivent considérer que nous sommes un gouvernement à l'écoute et que lorsqu'il y a des sujets qui méritent d'être éclairés, c'est là ces phrases. C'est pas pour rien que nous avions réuni récemment tous les conseillers en communication du gouvernement, parce qu'il faut s'assurer que de ce côté nous avons une communication harmonisée, coordonnée et cohérente, ce qui permettra aux Congolais de faire le suivi de l'action gouvernementale. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que les premiers pas ont été bien posés. Il faut regarder les deuxièmes semestres, ce que sera l'action du gouvernement. Et de notre point de vue, pour ce qui concerne nos objectifs pour ce mandat, nous pourrons être en mesure de relever. Je vais terminer, cher Marcel, en disant que les compatriotes qui nous jugent doivent toujours intégrer le fait que nous sommes là pour un mandat de 5 ans et que c'est peut-être pas 5 ans qu'il nous faut pour répondre à toutes les préoccupations de Congolais. Je m'en voudrais de ne pas casser les
rapidement,
mauvais débats.
Rapidement, oui.
Je m'en voudrais de ne pas casser les mauvais débats qui tend à commencer sur la révision de la Constitution, parce que j'ai vu le courrier qui a été signé par mon collègue de l'Intérieur. Il ne faisait que répondre à un courrier d'une ONG. C'est vers cette ONG qu'il faut poser des questions.
Voilà, mais merci
ici,
beaucoup, monsieur le ministre.
Le président a déjà indiqué les matières qui sont concernées par la révision et il ne faudrait pas ici ouvrir un débat qui ne mérite pas d'être
voilà.
Ce qui nous concerne.
Merci beaucoup, monsieur le ministre Patrick Muyaya. Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.